Une enquête à la fois intime et collective qui explore les conséquences sur la communauté gay de l'utilisation massive depuis 15 ans de l'application de rencontres sexuelles Grindr, ou Grindr, dépendant d'où on est, de quel côté de l'Atlantique qu'on est. Aussi populaire donc que controversé. Le journaliste Thibault Lambert vient de publier chez JC Lattès un livre qui s'appelle « Ce que Grindr nous a fait de nous ». Bienvenue à l'émission.
Merci, merci, bonjour à tous.
Oui, alors on a cette tradition ici, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, de demander aux gens quels pronoms et quels accords ils utilisent, surtout quand c'est la première fois qu'on fait une entrevue avec eux.
Le pronom « il », voilà, bon. Simplement.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce que Grindr a fait de nous?
Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que le constat déjà très personnel, arrivé à l'âge de 26-27 ans, que Grindr avait été finalement le fil rouge de toute ma vie sexuelle et affective durant ma vingtaine, et que c'était pas juste une application comme ça, j'étais un peu entré en homosexualité par elle, ce qui en fait constitue une nouveauté, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le témoin de cette première génération. Je l'ai installée quand j'avais 17 ans, en 2012. Donc voilà, je suis vraiment le témoin de cette génération qui est vraiment entrée en homosexualité, qui a commencé sa vie avec les applis et cette appli massive, hégémonique, qui est Grindr, voilà, je le dis à la française, moi. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais faire, c'était raconter l'usure de Grindr, quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais dont on parlait finalement assez peu. Enfin, en tout cas, je vois ici en France, il n'y avait aucun livre dessus. Et voilà, moi, je voulais raconter qu'à partir de 25 ans, je commençais à me lasser de ces rencontres, que aussi cette application avait eu, je pense, un impact sur moi, sur ma manière d'appréhender les rencontres, de voir la sexualité, du rapport que j'entretenais avec les hommes, qui était un rapport fait à la fois de désir, mais aussi de beaucoup d'adversité, de mise en concurrence. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai interrogé mes propres pratiques et je voulais répondre à des questions simples qui étaient pourquoi l'appli est là? Pourquoi est-ce qu'on est tous dessus? Qu'est-ce qu'on fait dessus? Et pourquoi, même si en fait elle est pénible à certains moments, pourquoi est-ce qu'on finit tous toujours par y revenir?
Ton enquête mêle donc des témoignages personnels, tu viens de le dire, et des analyses sociologiques. Comment as-tu construit cette approche?
Alors moi, je pense que l'approche personnelle, c'est-à-dire mon expérience qui sert un peu de fil rouge à l'ouvrage, je pense que c'était important parce que déjà ça permettait, c'était une démarche un peu de sincérité, c'est-à-dire pour montrer que je suis pas neutre, que je suis vraiment impliqué dans l'histoire que je raconte, que mon histoire personnelle, elle sert aussi de matière à réflexion, en fait, finalement, voilà, que j'ai vécu comme les bons côtés de Grindr, comme les plus mauvais. Et du coup, je pars de mon histoire pour avoir, voilà, certains constats, certaines expériences. J'ai interrogé d'autres utilisateurs pour, en fait, montrer qu'il y a, même s'il y a des expériences communes de Grindr, il y a aussi une pluralité de parcours, quoi. Et de montrer que, voilà, avoir aussi d'autres témoignages, ça permettait de montrer ce qu'on a en commun, mais aussi ce qu'on a de différent. Voilà, bien faire comprendre, et c'était normal, que mon parcours, il n'est pas semblable à d'autres, parce que voilà, moi, je suis un homme qui est cisgenre, qui est blanc, qui est gay. Donc voilà, c'était aussi important de faire parler des témoignages de personnes trans, de personnes racisées, de personnes séropositives pour le VIH aussi, parce que c'est des vécus qui sont aussi différents sur l'application. Et je voulais aussi faire parler justement des chercheurs, des universitaires et des professionnels du soin, des professionnels des médecins, médecins communautaires, des psys, des sexologues, pour justement que ces personnes-là, ces experts apportent de la perspective à mon vécu. Et en fait, tout ça, ça vise à un but, c'est que derrière les vécus que je raconte dans le livre, il y a un peu une sorte de remise en contexte de genre, bah voilà, Grindr, en fait, c'est pas nouveau, ça a rien révolutionné, et ce qu'on ressent, dessus. C'est un mal qui n'est pas forcément nouveau ni engendré spécifiquement par l'application, mais qu'il y a voilà un mal-être, une manière de se rencontrer qui s'inscrit dans une histoire de la rencontre entre hommes qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large et qui n'est pas née en 2019 avec l'apparition de Grindr, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire donc que Grindr pourrait peut-être amplifier ces espèces de rapports entre nous, des rapports qui sont peut-être de domination patriarcale, raciste, classiste au sein de notre communauté, de nos communautés en fait?
Tout à fait. Moi, c'est un peu le constat que j'ai fait dans ce livre et dans mon enquête, c'est que ce que je dis dans le livre, c'est que Grindr, c'est un peu le miroir grossissant des logiques qui sont à l'œuvre, selon moi, dans la communauté gay et plus largement aussi dans la masculinité, en fait. C'est-à-dire, ne serait-ce que voilà, la mise en concurrence des corps, le fait que si on a certains attributs qui se rapprochent de la masculinité, de la virilité qui est vraiment valorisée, exacerbée, enfin mise en avant dans nos sociétés occidentales, eh ben on bénéficie d'un certain pouvoir sur l'application par rapport à d'autres. Et ça, c'est pas nouveau en fait. C'est-à-dire que les mécanismes de domination, les rapports de pouvoir, ils existaient bien avant Grindr dans l'homosexualité masculine. Sauf que ils nous sautent en pleine figure sur Grindr. Pourquoi? Parce que Grindr, c'est un espace où déjà on n'a jamais été aussi nombreux, nombreuses sur une seule interface. C'est-à-dire qu'il y a quand même 13 millions et demi d'utilisateurs qui se connectent chaque mois sur Grindr. Ça n'était jamais arrivé avant. Il y a vraiment cette plateforme mondiale. Et il y a aussi le fait que comme tout le monde a des recherches et essaie de faire le tri en fait dans les recherches, ce qu'a généré Grindr, c'est en fait une explicitation des critères. C'est-à-dire que le langage est très important, il faut détailler tout ce qu'on cherche de manière très crue, de manière, voilà, en se débarrassant de politesse. C'est ce qui fait que ce langage décomplexé, finalement, presque, on va dire, politiquement incorrect, fait que finalement, les violences, les rapports de pouvoir, ils éclatent au grand jour.
Rapidement, est-ce que, au-delà de ces violences que les personnes vivent en raison de leur identité, peut-être qui ne font pas dans le critère de masculinité leur désiré, etc., au-delà de ces violences-là, qui sont quand même assez importantes, il y a aussi des violences sexuelles, des violences physiques. Est-ce que c'est quelque chose que on voit chez Grindr, est-ce que Grindr a exacerbé ces violences-là aussi?
Alors ça, c'est une question qui est très difficile, mais pourtant cruciale, la question des violences sexuelles, parce que je pense qu'on est encore à une période où on commence à peine à évoquer les contours de la question de Grindr et du consentement. C'est-à-dire que il y a une question que je pose en creux dans le livre, et je pense que c'est un appel à une réflexion beaucoup plus grande, c'est est-ce qu'on a toujours consenti à tout dans nos rencontres Grindr et dans les plans qu'on dans les rencontres dans les hookups qu'on faisait avec les gens parce que voilà moi je m'appuie sur le travail d'un sociologue qui a fait en France tout un travail sur l'usage de l'application qui remarquait que quand même dans le cadre d'un plan d'une rencontre Grindr juste pour avoir un rapport sexuel finalement, le consentement, la possibilité de revenir sur ce qui avait été négocié au préalable pendant les messages, cette possibilité-là, elle s'amenuise en fait. On n'ose pas dire non finalement, on n'ose pas dire qu'on a changé d'avis. Et aussi, il y a aussi pendant le rapport, parfois il peut y avoir des pratiques qui surviennent qui n'ont pas été en fait négociées en amont. Est-ce que comme ça fait partie du script, est-ce que si ça ne fait pas partie du script, on peut considérer ça comme quelque chose de non consenti? Voilà, et ça c'est une question. Et il y a aussi la question des plus jeunes qui arrivent sur l'application de rencontre. Les plus jeunes, on le sait, on commence à le savoir, ils ont peu d'expérience. Quand ils ont 17, 18, 19 ans, ils arrivent sur l'application, ils sont beaucoup sollicités, notamment par des plus vieux, des plus de 35 ans, qui, eux, ont une expérience sexuelle. Donc voilà, il y a aussi Mais ça, c'est pas nouveau, encore une fois, mais ça éclate vraiment au grand jour sur Grindr, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie d'expérience qui fait que je pense que les plus jeunes sont plus exposés à une forme de violence possible, de violence sexuelle, sauf que, et c'est pas nouveau, je pense, en fait, cette socialisation par la sexualité, c'était quelque chose qui a toujours été très présent chez les hommes gays, mais en fait, du coup, comme ça a toujours été très présent, on n'a pas vraiment remis cette pratique-là, ces phénomènes-là en question. Et je pense que là, Grindr est une invitation à peut-être essayer de se poser la question parce que voilà, il y a eu le MeToo, il y a eu un MeToo dans plein de domaines. Il y a eu un MeToo gay en France qui a explosé aux alentours de 2021. Et en fait, finalement, les témoignages autour de Grindr revenaient pas beaucoup, comme si finalement les personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles à travers des rencontres Grindr se sentaient peut-être pas forcément légitimes à parler ou se considéraient pas forcément comme des victimes en tant que telles.
Wow. Alors, ce livre s'appelle Ce que Grindr a fait de nous. C'est publié chez J.C. Lattès en France. Je pense que ça va être éventuellement disponible ici au Canada. Et Thibault Lambert, journaliste, merci d'avoir été avec nous.